franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Alain et bonjour à tous. Patricia, je viens donc de vous saluer en disant Patricia, bonjour Patricia et Alain. Je viens de vous saluer en disant Alain. Vous n'avez pas eu l'air choqué et de fait, il n'y a rien de choquant. Vous vous appelez Alain Alain et vous, Patricia, vous vous appelez bien sûr Patricia.
Oui, décidément, on ne peut rien vous cacher, Frédéric.
Non, mais dès lors, on cache le nom de famille. Ou du moins, on le tait. Et c'est un phénomène non dénué d'intérêt. Ainsi qu'on peut le lire dans l'enquête publiée dans l'Express cette semaine. Enquête d'Anne Rosenchère sur la nouvelle tyrannie du prénom. En quelques décennies, il a totalement supplanté le patronyme. Et désormais, tout le monde s'appelle par son prénom. Non seulement en famille, mais aussi dans les entreprises ou même dans certains restaurants. Chez Starbucks notamment, quand on commande à boire, faut donner son prénom. Et le serveur l'inscrit alors sur le gobelet, ce qui permet à Jules de ne pas confondre son cappuccino avec le frappuccino de Sophie quand il viendra récupérer son breuvage au comptoir. Vous n'allez pas chez Starbucks visiblement,
non,
Patricia Martin.
Non.
Avec les chauffeurs de chez Uber, c'est pareil. On passe sa commande avec son prénom. Alors tout à l'heure.
Oui.
On passe sa commande avec son prénom. Et c'est en nous appelant par notre prénom que l'on est ensuite accueilli dans les voitures. Même chose avec les mails. Du moins, dans les messages publicitaires que l'on reçoit, on cherche à vous vendre un nouveau téléphone ou des pilules amincissantes. Là encore, le message commence par votre prénom. Et que dire de la politique ? Désormais, lors des débats télévisés, tous les élus se donnent du Alain, du Arnaud, du Jean-Luc, du Dany. D'après l'universitaire Baptiste Coulmont, cette montée en puissance du prénom date du milieu des années 70. Mode américaine tout d'abord, elle était le signe d'une nouvelle décontraction, mais pour le sociologue Jean-Pierre Le Goff, cette mode est vraiment symptomatique de notre époque. Elle dit ce que nous sommes devenus, ce que la société est devenue. Les Français s'insèrent de moins en moins dans une dimension collective. On ne pense plus les rapports que dans un principe dual, deux individus particuliers interagissant avec une forte dimension psychologique et affective. Le nom de famille, poursuit-il, renvoyait à une filiation. Il témoignait d'une insertion dans une lignée, visiblement donc désormais. C'est l'individu qui prime sur la lignée.
Moi j'aime bien ça, parce que l'idée par exemple pour les petites pilules amincissantes, qu'on me dise « Patricia, vous allez fondre !» Tout de suite, ça, c'est vrai, ça motive.
Oui. Et c'est très intéressant, n'est-ce pas,
c'est
Patricia ?
C'est très intéressant, Frédéric.
Elle, ses admirateurs l'appellent tout simplement Marine. Et c'est là aussi une façon de faire oublier la filiation. Marine Le Pen fait les gros titres d'une partie de la presse ce matin.
La une notamment du journal du dimanche.
Photo de Marine Le Pen et photo de François Fillon, ce que les juges ont contre eux, titre l'hebdomadaire. Concernant le candidat du Parti Les Républicains, tout ou presque a déjà été dit. Concernant en revanche la candidate du Front National, les dossiers continuent de s'accumuler tous les jours. L'affaire des assistants parlementaires fictifs au Parlement européen, mise en examen de ses proches. L'affaire des sous-évaluations de patrimoine, cette fois Marine Le Pen est mise en cause avec son père, Jean-Marie Le Pen. L'affaire du financement frauduleux des dernières campagnes du FN, mise en examen de ses proches. Et comme le détaille Le Monde, toutes les campagnes électorales du Front National depuis 2012 font aujourd'hui l'objet d'enquêtes. D'un scrutin à l'autre, le parti a organisé l'opacité de ses comptes. Et ce matin, Mediapart et l'hebdomadaire Marianne rendent compte d'une nouvelle affaire, nouveau soupçon d'emploi fictif. Un ancien conseiller de Marine Le Pen, pendant la campagne de 2012, aurait été rémunéré par un contrat fictif au cabinet de l'expert comptable, attitré du FN. Or, le dit conseiller affirme lui-même qu'il n'y a jamais mis les pieds. Ainsi que le résume le Parisien dimanche, Marine Le Pen est donc cernée par la justice. Mais ce matin dans la Provence, elle dénonce une nouvelle fois une instrumentalisation des juges, mise en œuvre, d'après elle, pour casser la dynamique du Front National. Elle redit également que c'est pour cette raison qu'elle ne se rendra pas à la convocation de la police. Le message qu'elle envoie est déplorable, commente Jean-Jacques Curvoas, le ministre de la Justice, dans les colonnes du JDD.
Oui, à lire également dans le journal un appel étonnant de l'écrivain Christine Angot.
Un appel qui sans doute en fera rigoler certains. Ne désertez pas, lance-t-elle au président de la République. Compte tenu de la situation politique actuelle, la romancière Christine Angot exhorte François Hollande à se représenter. Il y a quelques mois, écrit-elle, vous n'aviez aucune chance de l'emporter. Maintenant, vous en avez une. Et puis on notera par ailleurs le ralliement de Christophe Caresche À Emmanuel Macron, le député de Paris, chef de file de l'aile droite du PS, estime qu'il est le seul à pouvoir aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron est le seul à pouvoir aujourd'hui battre Madame Le Pen. Pour revenir au nom de famille, le bimestriel, ça m'intéresse, histoire, nous apprend d'ailleurs que deux Macrons se sont déjà illustrés dans le passé. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, un certain Ptolémée Macron travaillait ainsi au service d'Antiochus IV, le gouverneur de l'empire perse Séleucide. Un jour, son maître le charge d'envoyer une armée en Judée, mais une fois arrivé sur place, Ptolémée Macron choisit de rejoindre les Juifs. Il passe donc dans le camp de l'ennemi. Imaginez un peu la tête d'Antiochus IV. 200 ans plus tard, en 37 après Jésus-Christ, un Macron romain cette fois-ci, Sutorius Macro, travaillait au service du vieil empereur Tibère, mais il en avait marre du vieux, grand besoin de changement. Et pour accélérer l'accession au pouvoir du jeune Caligula, Sutorius Macro a décidé de tuer Tibère en l'étouffant sous ses couvertures. François Hollande n'a heureusement pas eu à subir ce sort-là. N'empêche, résume la revue, depuis 2000 ans, Macron rime avec trahison. Cela étant, doit-on vraiment détester les traîtres? Non, répond Manuel à France qui signe le papier. On ne doit pas les haïr car les pros des coups bas ne sont pas tous d'affreux et vils calculateurs, non. Certains, au contraire, poursuivent un noble idéal et ils sont finalement les moteurs de l'histoire.
Les journaux, Frédéric, reviennent par ailleurs sur la défaite des joueurs du 15 de France dans le tournoi des 6 nations.
Ils ont été battus 19-9 par les Irlandais et les Irlandais étaient vraisemblablement mieux organisés et très supérieurs physiquement, nous explique Sud-Ouest Dimanche. Le titre à la une, trop tendre, c'est bleu. Le 15 de France, encore trop vert, confirme la dépêche du dimanche, tandis que l'équipe évoque des rugbymen français à l'arrêt. Et puis sur la pelouse hier, il y avait un autre homme qui compte dans le monde du rugby, l'arbitre Nigel Owens. À 45 ans, il est considéré comme l'un des tout meilleurs de sa catégorie. Mais ainsi que le rappelle Libération ce week-end, il est aussi connu pour être la première personnalité du rugby à avoir fait son coming out. Au début du mois, sur une radio britannique, le Gallois est d'ailleurs revenu sur ses souffrances d'adolescent. « Je ne voulais pas être gay et j'ai demandé à mon docteur de me castrer physiquement. » Confidence que Nigel Owens avait déjà faite dans son autobiographie publiée en 2008. Aujourd'hui, il milite contre l'homophobie dans le sport et pour lui, la tolérance sera plus forte quand une autre discipline bougera, en l'occurrence le foot. J'ai l'impression que tout le monde attend de voir qui sera le premier footballeur à faire son coming out, disait-il à l'équipe dans une interview. Oubliant cependant le cas de Justine Fashanu, le jeune attaquant anglais qui rompit le silence en 1990, puis qui, après avoir subi pressions et calomnies, se pendit 8 années plus tard. Sur le site du quotidien, on apprend par ailleurs qu'un étonnant manuel a été distribué aux élèves d'un lycée privé. En France, le nom du lycée n'est pas donné, mais on a celui du manuel pour réussir sa vie sentimentale. Joli programme, mais quand on le parcourt, voilà ce que l'on peut lire à propos de l'homosexualité. Elle résulte surtout d'une évolution psychique marquée par l'influence excessive ou insuffisante du père ou de la mère dans l'enfance ou suite à des perversions d'adultes qui ont provoqué une attirance pour le même sexe ou une répulsion pour l'autre sexe. Perversion, répulsion, ce n'est pas la première fois qu'un tel ouvrage circule dans les lycées privés. Notre Libération, rappelant qu'un manuel anti-IVG de la Fondation Le Jeune avait déjà été signalé. Allez, pour finir, deux dernières infos à la une de Nord Littoral. Clément, Angèle et Laurent prennent le large. Là encore, pas de nom de famille, mais bon, il est question de phoques relâchés dans la mer hier. Et puis, toute la presse se demande si, après son César, Isabelle Huppert recevra ce soir un Oscar. César, Oscar, là encore, pas de nom de famille.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.